Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici. 88.3, ça part ici.
Toujours à l'antenne du 9 sur les ondes de CFAQ 88.3 en ce 23 septembre 2024. Super plage plus un Virginie B. Maggie Lennon qu'on a entendu en musique. Sarin, tu voulais nous parler des déplacés en Afrique subsaharienne, les derniers événements.
Oui, effectivement, je vais débuter par vous mettre un peu une mise en contexte du continent africain d'un point de vue démographique. Le continent africain, c'est le deuxième plus peuplé au monde, avec 1,5 milliard d'habitants. C'est le deuxième derrière l'Asie, qui est à 4,2 milliards. Puis si la tendance se maintient, la croissance ne va pas ralentir lors des prochaines années. On peut notamment penser à la croissance, à l'éclosion démographique que connaissent les pays de la Corne de l'Afrique. Puis, ce boom démographique va être dû à plusieurs facteurs, dont le haut taux de fertilité chez les femmes, puis du non-usage de la contraception et d'un cadre religieux qui est encore généralement très présent dans ces pays. On peut penser, par exemple, au Niger, qui a un taux de fécondité de 6,82 enfants par femme, en comparaison avec le Québec, où est-ce qu'on se situe environ à 1,45 enfants. Puis, c'est le chiffre envisageable pour mener une croissance démographique va être de 2,10. Puis aussi, on peut penser sur le plan économique. Le continent africain fait bonne figure en ce qui a trait à ses ressources naturelles qui sont présentes sur son territoire. On peut penser notamment aux réserves de pétrole qui sont présentes en Angola, puis ici de la troisième réserve mondiale de diamants qu'on y trouve, ou bien au Nigeria aussi qui détient la septième position en ce qui a trait à la production de pétrole. Puis ce même pays, le Nigeria, devrait atteindre 500 millions d'habitants d'ici 2100. Cependant, dans le clou du sujet qui est le déplacement forcé de ces populations africaines, ce sont vraiment des millions, c'est 75,9 millions de personnes à chaque année selon les plus récents chiffres publiés par l'Organisation des Nations Unies dans le volet migration qui démontre que ces personnes vont quitter leur domicile pour se déplacer à l'intérieur du même pays. Puis c'est un chiffre qui a doublé depuis 5 ans, depuis la pandémie. On peut penser à des régions qui vont être notamment plus touchées, comme la région du Darfour qui se situe à l'ouest du Soudan, où c'est plus de 9,1 millions de personnes qui vont être déplacées. Puis ici, j'avais fait un petit parallèle du 9,1 millions de personnes déplacées. On peut comparer ça à ici au Québec, on est 9 millions. C'est dans une situation extrêmement utopique, bien sûr. C'est comme si François Legault nous demandait demain à chaque Québécois et Québécoise de quitter notre domicile parce qu'il y a une menace extérieure qui viendrait faire en sorte que l'on ne peut plus habiter ici et que l'on doit vivre dans le reste du Canada. Mm-hmm. Mais c'est bien la réalité pour ces Africains et Africaines. Puis on est bien chanceux aussi d'avoir un régime politique qui est relativement stable comparé à ceux qui sont présents en Afrique subsaharienne. Donc, j'avais posé une question qui était: comment les gouvernements des pays africains peuvent-ils aider leur population à rester dans leur domicile? Bien, on se trouve dans un terrain qui est en pente glissante. On peut prendre en compte que la majorité de ces pays dans ces régions ont connu leur indépendance ou leur affranchissement du colonialisme récemment, à l'exception de l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisé. Par exemple, la Somalie, ça reste un jeune pays qui a été fondé en 1960, lors de la période de décolonisation, puis obtient son indépendance par rapport à l'Italie et au Royaume-Uni. Ou bien l'Érythrée, en 1993, ou bien un très jeune pays aussi qui connaît encore des difficultés, le Soudan du Sud. Donc, outre le fait que la très grande majorité des pays africains ont connu la démocratie libérale depuis peu de temps, les autres États ont plutôt aussi adopté des régimes autoritaires, voire dictatoriaux. On peut penser aussi à d'autres facteurs historiques qui ont contribué à la perte des libertés individuelles et des problèmes structuraux que l'on observe sur le continent. Par exemple, on peut penser à la dette odieuse. C'est une dette qui a été contractée entre les anciennes colonies puis les métropoles, où les dirigeants politiques des pays africains vont s'accaparer des richesses et pas redonner à leur population. On peut penser à la corruption, la mauvaise gestion des taxes, les législations qui vont être inadéquates pour les populations les plus vulnérables, l'apartheid en Afrique, aussi aux inégalités de genre et le manque de leadership des dirigeants d'État.
Est-ce que parmi les raisons qui font en sorte que les gens se déplacent, outre peut-être les gouvernements, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de travail, il y a un manque de ressources. Qu'est-ce qui serait selon toi l'une des raisons qui explique ce départ-là?
Oui, exactement. Donc, je peux vous parler aussi, ce serait surtout des raisons des conflits entre différents groupes. On peut penser notamment au Soudan, ça va être des groupes islamiques radicaux contre des groupes où est-ce que ça va être des personnes noires non islamiques. Puis c'est le conflit qui fait le plus de déplacés à l'interne, parce que souvent ici, ces personnes-là ne vont pas avoir les ressources nécessaires afin d'aller vers un autre pays qui pourrait les accueillir ou est-ce qu'ils pourraient devenir réfugiés puis avoir un statut de réfugié. Il y a aussi la cause climatique qui est extrêmement importante, puisque ces pays du Sud, du continent africain, vont être ceux qui vont le plus subir des effets du réchauffement climatique. Puis ça peut paraître banal d'un point de vue ici, parce qu'on est un peu en abondance sur beaucoup d'aspects comme l'eau. Mais on peut penser à un puits en Afrique qui va être contaminé. Ça va affecter directement un enfant qui peut développer des maladies diarrhéiques, puis mourir à cause de déshydratation. Puis...
William, t'avais-tu... Non, c'était bon.
Désolé.
Amine.
Ryan.
Ryan, oui.
Je m'appelais Amine.
Je pense à plein d'autres gens. Je sais pas.
Ouais, tranquille, c'est pas.
Ryan, excuse-moi.
Moi, je fais un petit rebond sur ce qui a été dit vis-à-vis des conflits. Je pense que même actuellement, on est dans une période où là, on a atteint ces critiques des 70 millions de déplacements et d'immigration, même à l'échelle mondiale, à cause de plusieurs conflits différents. Mais moi, ce qui m'alarme le plus en vrai dans ces chiffres, c'est le peu de solutions en fait qui sont mises en place par les gouvernements actuels. Donc, c'est à se demander si en fait derrière tout ça, on n'a pas aussi un manque de considération et aussi d'humanisme qui s'est perdu aussi avec le temps. Parce qu'on sait que actuellement, je prendrai l'exemple que tu m'as dit avec les Nigériens qui sont forcés de partir du Cameroun. En fait, on n'a aucun appui. On a 530 000 personnes qui sont déplacées comme ça d'un lieu et aucune considération, aucun soutien, aucun appui. Comment se positionnent les ONG ou les associations caritatives dans ça? Est-ce que tu pourrais un peu plus m'aiguiller? Parce que moi, j'entends tes informations et je vois si peu de solutions que ça me fait peur, quoi.
C'est vrai, je l'ai présenté d'une façon extrêmement sombre, mais il y a quelques pistes de solutions qui seraient viables. Donc, les ONG vont d'habitude s'assurer de la construction. Ça va être des constructions des camps, puis d'abris temporaires. C'est vraiment temporaire. Mais le problème qui persiste, c'est que c'est un problème permanent. Parce que c'est des gens qui se font littéralement mettre dehors de chez eux, puis ils vont se retrouver dans des camps, comme il va y avoir des camps, j'avais mentionné la région du Darfour, puis c'est des camps où est-ce que c'est vraiment le strict minimum nécessaire pour la survie. Donc, nourriture, eau, peut-être pas un espace vraiment suffisamment grand pour avoir des relations sociales ou même cuisiner. Puis, c'est... En fait, je vais plus y aller sur l'opinion, mais c'est un peu comme si on laissait ça à la dérive, à la merci de ces pays-là, puis au gouvernement, puis aux individus qui font part de... qui sont dans ces pays-là, de prendre des solutions eux-mêmes, parce que c'est un peu plus grand que mesure aussi. Puis, dans les autres pistes de solutions que j'avais aussi identifiées, il y avait aussi d'améliorer les conditions des femmes. Parce que souvent, les femmes dans ces pays-là vont être beaucoup plus persécutées. Puis, dans le nombre des personnes déplacées, ça va surtout être des femmes et des enfants qui vont être en premier plan. Parce qu'il y a encore des rapports inégalitaires. J'avais lu un article récemment sur les femmes au Kenya, des femmes au Kenya qui s'étaient créé un propre village à elles pour fuir, en fait, les hommes, parce qu'ils avaient trahi un lien de confiance avec les hommes, parce qu'ils s'étaient fait violer dans les années 1990 par les corps militaires britanniques. Donc, en revenant, ils étaient chassés, forcés à l'exode.
Ouais.
Puis, aussi, une autre piste de solution, ça serait... Ben, là, c'est un peu plus irréaliste, mais ça serait aussi d'apporter la laïcité dans l'État, puisque souvent, ça va être des personnes qui vont être en position d'autorité dans des églises. On sait que le catholicisme est encore extrêmement fort dans les structures sociales étatiques en Afrique, ainsi que l'islam. Donc, ça serait de séparer ça pour qu'il y ait des gouvernements plus éclairés, puis que les individus prennent plus de part dans les décisions du gouvernement.
J'avais vu en plus une information qui disait qu'au Mali, il y avait plus de 1500 combattants dans le conflit qui avaient déposé les armes. C'était, si je ne me trompe pas, un programme de la DDR. C'est de l'agence française, c'est une agence française gouvernementale basée sur certains de ces conflits en Afrique subsaharienne. Donc peut-être en vrai, ça reste une piste encourageante, mais ça ne change pas le fait qu'en vrai, actuellement, je pense qu'en vrai, il faudrait que les, qu'au Québec, même en général, comprennent qu'il y a, même dans les pays occidentaux ou du Nord, qu'il y a une certaine chance d'accessibilité à de la sécurité et de l'alimentation qu'ils n'ont pas dans, dans ces pays. Parce que même là, tu vois, genre, juste pour me renseigner, j'ai un peu checké les news, mais je vois pas mal de gens, un père de famille de 72 ans avec 5 enfants, qui dit que bon, la vie est dure, mais au moins il peut dormir dans certains camps. Donc ouais, mais bon, il y a quand même des pistes encourageantes. J'invite les gens à se renseigner sur le programme DDR et la mission de l'ONU au Mali, qui est en train d'apporter des résultats de ce que je vois. Mais à voir ce qui va s'en suivre sur les mois à venir.
Ça reste quand même des conflits qui sont malheureux, mais bon, voilà, il y a peut-être certaines pistes qu'on sera capable un moment donné de pouvoir accomplir. Merci, Sarah. On s'arrête quelques instants, on retourne, on poursuit, on parlera avec, on parlera de la Martinique, c'est notamment. Ça. On s'arrête quelques instants, vous écoutez le 88.3, c'est FAQ.